grande matinale Le Mag, c'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec Charline Vanhoenacker. Il paraît que la demande d'escort girl explose à Davos pendant le forum avec Daphné Burki et sa nouvelle tête, la rappeuse 2L qui sort bientôt son premier EP. À 9h30, le débat du jour. Radio France, c'est partenaire des Nuits de la Lecture pour encourager petits et grands à ouvrir un livre. Oui, mais quel livre? Je pose la question qui fâche. En 2026, faut-il encore se forcer à lire les classiques? Vous verrez, tout le monde n'est pas d'accord et n'a pas le même avis sur la question. Mon invité lève les yeux au ciel, lui qui a donné à la France entière l'envie de relire Alexandre Dumas.
France Inter. La grande matinale. Sonia De Villers.
Il y a deux jours, Pierre Ninet était invité de Quotidien. À la question « Que feriez-vous si vous étiez président de la République ?», il a répondu « Redonner beaucoup d'argent, de temps et d'attention au service public ». Là, grosse marade, waf waf waf, il enfonce des portes ouvertes ou torrent d'insultes au choix. Aujourd'hui, Pierre Ninet est au micro d'un service public, parmi d'autres, qui le remercie de défendre ces valeurs-là. 13 millions de spectateurs sont allés voir son Monte Cristo. À sa place, d'autres auraient transféré leur argent au Luxembourg et ne se seraient plus occupés que de leur gloire et que de leur gueule. Lui, il revient à l'écran dans une super production racontant la descente aux enfers d'un coach superstar, un maître du développement personnel, un gourou qui ne pense qu'à sa gloire et qu'à sa gueule. Morale de l'histoire, les gens qui ne pensent qu'à leur gloire et qu'à leur gueule sont dangereux pour eux-mêmes et pour nous tous. Portrait numéro 77.
Toi, ton mur, c'est pas avec de l'amour en fait que tu vas le construire. Ça, t'as essayé. T'as déjà essayé toute ta vie, ça a pas marché. Ça marchera jamais. Tu crois que ta femme, elle a besoin de ça? De vivre avec un homme qui se cache, qui passe comme un fantôme? Tu crois que tes enfants, ils ont besoin de ça? D'un père, comme une colonne de sable, on pose la main, il s'effondre. Un père dont on a honte d'avoir honte, alors on fait semblant. Et ça continue encore jusqu'à soi-même devenir père, une autre colonne de sable, encore un vieux drap usé, encore une génération de fantômes, encore et encore. Tu crois que c'est ça? Non. Alors sors ton téléphone, Daniel. Il faut que tu démissionnes. Prends une décision, change ta vie.
Bonjour Pierre Ninet.
Bonjour.
Gourou sort mercredi prochain au cinéma. Et ce n'est pas un film sur un gourou, c'est un film sur la naissance d'un gourou, en réalité. Et c'est ce processus-là qui est intéressant à voir à l'écran, à travers vous, à travers vos mots, à travers votre corps, à travers votre visage. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un personnage à qui vous donnez un côté assez brave type, ce Mathieu Vasseur, assez plein de bonne volonté en réalité. Il n'est pas totalement repoussoir au départ.
Non, pas du tout. Il est séduisant, il est charismatique et puis surtout, il accompagne bien les gens, il veut le bien des gens.
En tout cas, il en est convaincu.
Complètement, ouais. C'est pas du tout un cynique, c'est pas du tout un coach en développement personnel qui ferait ça uniquement pour l'argent, pour séduire les gens, pour manipuler les gens, pas du tout. Et ça nous intéressait pas, ça. On voulait que ce soit quelqu'un qui ait des bonnes intentions et puis de voir jusqu'où parfois ça peut dérailler.
C'est ça. Et petit à petit, son visage change, son regard, ses gestes, sa voix, ses cris. C'est-à-dire que tout se remplit d'intensité, de nervosité, de noirceur. Écoutez un morceau de la bande-annonce, alors, comment dire, si vous reconnaissez la voix de Nicolas Demorand, c'est normal.
Vous craignez que le coaching soit une porte d'entrée vers des dérives sectaires?
On ne va pas demander un diplôme d'État à chaque coach.
Pourquoi pas? Positivité toxique, vous connaissez cette notion?
Je peux pas les laisser tout me prendre.
Tu crois quoi en fait? Que c'est avec des fleurs que je vais aider les gens?
Are you fucking ready?
Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Ce que tu veux, c'est ce que tu es.
Encore une fois, ce que tu veux.
Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Vous avez passé combien d'heures sur une estrade face à un public de figurants, Pierre Ninet?
Beaucoup. Pour ces grandes scènes de séminaire qui devaient être comme dans un film de boxe, comme les matchs de boxe, avec toujours une double lecture. Ce que le coach est en train de raconter, comme souvent le match de boxe qui a lieu, et en même temps, ce qui se passe dans les coulisses, ce qui se passe en fait entre les lignes, c'était très important. Et l'idée, c'était
comme dans les films de boxe, c'est
ouais,
vrai.
C'est Yann Gozlan qui en parle comme ça.
C'est votre réalisateur. Ouais. C'est une grammaire cinématographique.
Exactement. Et je pense que c'était aussi l'originalité du film, c'est qu'on n'a jamais vu ces grands séminaires finalement de développement personnel où les gens payent quand même parfois cher pour 3-4 jours enfermés dans ces grandes pièces où il n'y a pas de fenêtre, on ne voit plus le temps passer. Et parfois, pas toujours, l'idée n'était pas de rejeter en bloc cette profession du coaching. Il y a des gens qui accompagnent très bien des personnes, sans doute, mais d'interroger quand même sur ces espèces de nouvelles grandes messes, ces nouveaux prédicateurs qui parfois le font sur les réseaux sociaux. On a tous vu dans notre feed Instagram, TikTok, passer des gens qui nous disent comment manger, comment maigrir, comment devenir millionnaire et j'en passe, et des meilleurs. Et qui font aussi ces grands séminaires. Et c'était vraiment l'originalité du film. Et là, moi, je me retrouvais à jouer avec 500 personnes en même temps parce qu'ils nous ont donné une énergie. Et ils ont inventé des trucs dans ces scènes-là qui sont vraiment incroyables.
Et autre élément de grammaire cinématographique, et c'est ça qui est intéressant, il y a un très grand metteur en scène de théâtre qui s'appelait Patrice Chéreau, qui était aussi un grand réalisateur, et qui lui disait qu'il était venu au cinéma pour pouvoir faire des plans serrés. C'est-à-dire qu'il disait, le théâtre, ça n'est que des plans larges. Quand on est assis, du point de vue du public, on regarde la scène en plan large. Si j'ai voulu faire du cinéma, c'est pour pouvoir approcher ma caméra du visage de l'acteur. Et on voit bien que Yann Gosselin joue avec ça, c'est-à-dire plan large, plan serré, plan large. Le public, le visage, c'est-à-dire ce que perçoit le public de loin et ce que la caméra vient attraper de votre visage qui est en train de basculer petit à petit dans la folie.
Oui, complètement. Il y a complètement de ça. Et puis, on voulait faire un film avec, encore une fois, ces grandes scènes où le coach va aller chercher chez ses clients, patients, adeptes. On peut se poser la question du nom qu'il faut leur donner.
Ouais, followers, fans.
Ouais. Et on voit comment ça peut aller trop loin aussi dans le rapport avec les fans, justement, avec les fidèles, et comment eux peuvent passer de l'admiration de ce coach à l'adulation. Et bien sûr, l'infiniment grand, c'est-à-dire vraiment cet effet où ils sont presque dans un état, mis dans un état second, on peut se demander s'ils sont en pleine possession de leurs moyens. Effectivement, dans l'extrait, vous entendez, il y a des moments où ça va très loin, il fait faire à des gens, il fait prendre des décisions à des gens, des choses irréversibles qui impactent grandement leur vie. Et on se pose la question de, bah oui, mais faire ça sous la pression d'un groupe, devant 400 personnes, avec en plus la musique des Chicago Bulls de Michael Jordan, que parfois il envoie derrière, comme pour justement galvaniser encore plus la foule. Le film va poser ces questions de jusqu'où on est dans l'admiration, jusqu'où on est dans le conseil, à partir de quand on passe dans l'adulation et on perd son sens critique.
Le
parfois.
Film pose aussi la question de la vulnérabilité d'une foule dans une période de crise, par la manipulation des réseaux sociaux, avec la perte des grands repères idéologiques, religieux. Et on ne cesse de répéter depuis des années que c'est dans des périodes comme ça qu'un outsider peut arriver de nulle part et finalement prendre le pouvoir par des outils démocratiques, c'est-à-dire vraiment conquérir la présidentielle. On l'a dit, un animateur télé, il y a eu tellement de rumeurs sur Hanouna, un humoriste, mais on l'a dit.
Bien sûr, on a l'impression que là, l'époque est mûre, les gens sont mûrs, on s'est un peu détourné de la religion, on a une défiance envers les politiques dans leur forme peut-être plus traditionnelle, plus classique. Il y a eu beaucoup de déceptions aussi du point de vue politique. Ouais. Et il y a un espace là, qui est prêt, qui est vide, et que les coachs arrivent à investir. Parce que on a notre besoin d'histoire depuis toujours, depuis la nuit des temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais ce métier, moi, acteur. C'est pour combler ce besoin, pour venir mentir aux gens, raconter des fables, des paraboles, mais en leur disant, nous mentons. Et la grande différence, évidemment, avec les coachs ou avec les hommes politiques, c'est qu'eux prétendent dévoiler une vérité. Et donc, c'est une toute autre démarche. Et elle peut être dans
le... Donc, c'est un film sur la dictature de l'émotion.
C'est un film sur comment on a basculé dans cette ère de post-vérité, dans un règne de l'émotion. On veut tous des émotions
fortes. Et c'est quand même difficile de ne pas voir en filigrane des grandes figures de leaders populistes qui ont su électriser les foules.
Bien sûr, le film est un thriller, c'est vraiment un film qui veut divertir, qui veut être haletant.
Totalement.
Avec des rebondissements. On n'est pas en train, je le dis, c'est important, on n'est pas en train de faire un truc politique ou militant,
non.
Pas du tout. L'idée était vraiment d'être dans la
veine... C'est juste que ça percute. Tellement l'époque.
Bien sûr.
Tellement.
Mais on voulait être dans la veine de Boîte Noire, avec le côté thriller, haletant, où il y a des retournements de situation. Mais en même temps, c'était important, effectivement, pour nous, de venir traiter notre sujet, qui était le pouvoir de la parole. Et le pouvoir de la parole, ça peut aller assez loin, évidemment.
Écoutez, Valère Novarina, immense dramaturge français qui est mort cette semaine. Il était au répertoire de la Comédie française. Il était un pilier du Festival d'Avignon. Je ne sais pas, vous avez déjà joué du Valère?
Figurez-vous que non seulement j'en ai déjà joué, mais c'est surtout le tout premier texte que j'ai joué en troisième, sous la direction de mon professeur d'anglais. Et c'est là que j'ai vu des adultes rire pour la première fois un texte que j'ai dit. Et moi-même, je ne le comprenais qu'à moitié, parce que j'étais tout jeune. Et à la Maison de la Poésie à Paris, j'ai vu les adultes rire et je me suis dit « Ah ouais, c'est un super pouvoir ». Et je pense que ce jour-là a été un déclic pour moi.
C'est Valère Novarina le déclic.
Ouais,
qu'est-ce que vous faisiez à la Maison de la Poésie en troisième?
On avait un professeur dans l'école publique qui était motivé, qui était bienveillant et qui nous a amené réciter du Valère Novarina, toute une petite classe, enfin même pas une classe, en fait ceux qui voulaient bien faire ce cours, ouais, ceux qui voulaient bien faire ce cours de théâtre.
L'atelier théâtre.
Cours, ouais. Et moi-même, je savais pas trop ce que je faisais là et je ne savais pas à quel point ça allait changer ma vie.
Alors Valère Novarina, qui est mort cette semaine, donc on l'écoute.
C'est quoi un bon acteur pour vous? Un acteur que vous avez envie de solliciter pour...
C'est un acteur dont le combustible, comme il y a des locomotives à charbon ou des locomotives, c'est dont le combustible est le langage. C'est quelqu'un des acteurs qui ont un rapport très fort à notre langue. Et c'est pas, il y a de très bons acteurs qui ne l'ont pas du tout, qui ont un rapport avec le personnage, la psychologie. Et c'est dans le fond des acteurs aussi qui ont l'esprit d'enfance, qui a une sorte de simplicité, qui disent des choses assez complexes de façon transparente. Voilà. Il y a une sorte d'esprit d'enfance, je ne peux pas dire autrement. Et d'animalité.
Valère Novarina, c'est très beau ce qu'il dit.
Ah, c'est une belle définition de l'acteur, je trouve. Mm. Ouais, complètement. C'est, lui, il était très lié au langage, il le torturait, il le faisait bouger dans tous les sens. Il y avait la notion de mouvement dans son langage. Et moi, ça m'a vraiment marqué. Bah, j'aime le mouvement, j'aime le physique, et puis j'aime ce qu'il raconte de l'enfance, évidemment, parce qu'on a tous... c'est un poncif, c'est un cliché, et pardon d'enfoncer une porte ouverte, mais les acteurs, les artistes, on a voulu entretenir plus que de raison, peut-être parfois, ce lien avec l'enfance.
Ce lien avec l'enfance, c'est quoi? C'est l'idée de pouvoir insuffler de la vie.
Je pense que
parce
c'est...
qu'il y a ça, quand un enfant rentre dans une pièce, il y a quelque chose où la vie surgit. Est-ce
ouais,
que c'est
vrai.
Ça, un acteur? C'est cette capacité à insuffler de la vie, à un texte qui a 3 siècles, à un scénario qui n'est juste qu'une page écrite noir sur blanc, cette capacité à faire jaillir du souffle.
Ouais, c'est une belle définition. Moi, j'avais jamais imaginé effectivement l'idée qu'on ramène de la vie coûte que coûte et que... quoi qu'on fasse, quand il y a un enfant effectivement qui débarque dans nos vies, il y a de la vie qui est réinsufflée quand
pas
il n'y en avait plus. Voilà, on n'a pas le choix.
Pas le choix.
La vie. Mais c'est vrai que moi, je le vois comme un attachement très fort à l'imaginaire. Et encore une fois, on revient au fait qu'on a toujours envie d'entendre des histoires et que c'est à la fois ce que raconte le film Gourou, notre plus grande force et notre plus grande faiblesse, parce que notre plus grande force, justement, parce qu'on lit aux enfants des histoires pour s'endormir, mais pas que pour s'endormir, pour les structurer moralement, pour leur donner un miroir du monde dans lequel ils vont évoluer, un jeu de valeurs. Et de l'autre côté, c'est notre plus grande faiblesse, parce qu'on veut toujours croire à des trucs qui sont pas croyables, quoi. On veut toujours croire, malgré le fait qu'il n'y ait pas de preuves parfois, malgré le fait que la parole vienne de quelqu'un de douteux, de questionnable. Mais en fait, si l'histoire, elle est belle, si elle va dans le bon sens, et sur les réseaux sociaux, on le voit bien, on est prêt à adhérer à des choses folles, mais du moment qu'elles vont dans un sens qui nous arrange parfois.
Ces heures et ces heures de tournage passées sur une estrade face à un public de 500 figurants, ça vous a ramené au théâtre? Vous me dites, c'est comme un ring de boxe. Oui, c'est aussi comme une scène de théâtre de l'époque où vous faisiez le conservatoire et 6 ans de Comédie française et tout ce qui a suivi. Mais en réalité, c'est une forme de retour sur les planches.
Bien sûr, c'était le grand plaisir que j'ai eu avec ce film, c'était de revenir sur scène. Mmh. Et j'avais sous-estimé même le plaisir que ça m'a fait. Je suis arrivé et effectivement, j'ai eu le trac avant la première scène de séminaire dans Gourou. J'ai eu le trac et j'ai adoré réavoir le trac. Et ma grande surprise et
comment
la grande...
Comment ça, vous avez adoré réavoir le trac? C'est-à-dire que vous aviez le trac au théâtre, vous n'avez jamais eu le trac au cinéma?
Non, j'ai le trac au cinéma, mais de manière différente. Le trac du théâtre, il m'a vraiment poursuivi, il m'a hanté. J'étais très jeune quand je suis rentré à la Comédie française, je crois que j'avais 21 ans.
Vous étiez le plus jeune des pensionnaires masculins, c'est ce qu'on a toujours dit de vous.
Voilà, oui. Je crois que pour les filles, il y avait Adjani qui est rentrée encore plus jeune. Mais oui, c'était flippant. Et le trac m'a gâché une partie du plaisir quand j'étais au théâtre parce que j'y suis rentré
jeune. Mais quand vous avez quitté la Comédie française, le trac était guéri?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non, je guérirai jamais du trac, je pense.
Il y a quelques semaines, il y avait Laurent Lafitte, exactement à ce micro.
Et déjà, ça me dégoûte qu'il était à ce micro.
Je
suis à deux doigts de partir.
Bah oui, bah, partez.
Je l'ai vu dans la cage aux folles, il est extraordinaire.
Et il l'a dit, j'ai le trac, vous n'imaginez pas, ça me bouffe, ça me détruit, ça me flingue la tête et tout ça. Mais lui aussi, il est passé par la Comédie française. Mais nous tous, on imagine que la Comédie française, c'est un vaccin contre le trac. On monte
sur
scène.
Non, c'est une usine de Jean Mazo, ça n'a rien à voir.
Ah ouais?
Non, tout le monde a le trac. Après, il y a des gens qui gèrent plus ou moins.
Mais on monte sur scène tout le temps. Ça devient un job.
Mais c'est pour ça que je suis parti aussi. C'est une partie de ma décision. Il y a plusieurs morceaux et je voulais partir que avec des bons souvenirs. Je voulais pas être dans le regret. J'avais des films qui m'attendaient, géniaux et tout ça. Mais néanmoins, le trac était une donnée importante dans ma décision, dans le sens où j'arrivais mal à le gérer. J'aimerais bien revenir au théâtre aujourd'hui avec la maturité que j'ai. Je pense que je le gérerais mieux, non pas que j'en aurais plus. Mais moi, je me réveillais, j'étais heureux d'être en vie, heureux de voir que le soleil était levé. Et d'un coup, je me rappelais que je jouais Phèdre, Hippolyte dans Phèdre à 20h. Et d'un coup, le monde s'écroulait sous mes pieds alors qu'il était 10h du matin.
Le monde s'écroulait parce qu'on a peur d'oublier son texte.
Et c'est pas bien grave au fond, mais oui, bien sûr, ouais, on a peur d'oublier le texte. On sait qu'il y a un tel ou une telle qui vient ce soir. Donc moi j'avais ce défaut, et ça c'est lié à la jeunesse, je jouais trop pour les gens dans la salle, pour des gens en particulier je veux dire, et ça me tétanisait. Et après, la Comédie française a un système bien particulier qui fait que vos pairs, c'est-à-dire les autres acteurs de la troupe, vous regardent jouer un peu tous les soirs pour décider ensuite de quel va être votre avenir dans la troupe, votre salaire dans la troupe. Donc tout ça est un système particulier, moi je pense, qui est finalement à l'arrivée assez sain, bizarrement, mais qui marche. Et mais c'était bien sûr non le trac. Mais par contre, dans ces grandes scènes, il y avait 500 personnes qui jouer avec moi. Et donc ça, c'était fabuleux.
Très différent.
Ouais, très différent. Ouais.
Même si vous avez inclus, maintenant je le comprends, une petite séquence où votre personnage de coach vomit ses tripes avant de monter sur scène. Vous n'avez quand même jamais vomi avant de monter sur scène.
Non.
Et vous qui, aujourd'hui, avez côtoyé des comédiens très, très, très différents, d'âge, de génération, de parcours très différents, qu'est-ce qui différencie un acteur qui a commencé sur des planches ? Qui vient du théâtre.
Moi, je crois beaucoup de choses. Je suis fou de plein d'acteurs qui n'ont jamais fait de théâtre. Donc, chacun a son parcours et il y a mille manières de faire. Néanmoins, le théâtre offre déjà un sens du collectif. On a conscience des gens qui font la scénographie, des techniciens qui doivent l'installer, des gens qui font les lumières, parce qu'il y a des services entiers où on arrête, nous, de jouer ou de répéter pour leur laisser la place. Ou alors, on doit s'arrêter parce que dès qu'il y a un problème technique, et on est en train de répéter aussi la technique. Donc, contrairement au cinéma, où on arrive, tout est prêt, on est dans une bulle. Le théâtre déjà donne ça. Et après, une technique, un artisanat. Et moi, j'ai pas peur de ces mots, j'aime bien. Et parfois, au pays du cinéma de la nouvelle vague, on se dit, oh là, la technique et tout. Évidemment qu'il faut aussi un sens de l'improvisation, de la spontanéité, c'est inévitable. Mais la technique, voilà, si on veut construire une chaise, il faut un peu d'artisanat, un peu de technique pour avoir quatre pieds et qu'elle tienne debout. Et bah, la voix au théâtre, se positionner sur scène, ne pas être de dos, faire aussi, donner la part belle aussi à ses camarades, tout ça. Ça prend, c'est de la technique. Et ça, je trouve que c'est un bagage magnifique.
Alors, technique ou improvisation, vous allez nous le dire. Là, je vais vous faire écouter un extrait. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que vous avez déjà joué dans votre vie, Pierre Ninet, un personnage qui a une emprise psychologique sur d'autres. Non, vous ne voyez pas ?
Je ne vois pas encore, mais...
Ah bon ? Qui abuse avec un maximum de perversité et de mauvaise foi des autres, vous ne voyez pas ?
Peut-être Docteur Juif dans La Flamme.
Évidemment, Docteur Juif, personnage inventé par Jonathan Cohen dans sa série parodique. Rien que le nom me fait hurler de rire. Docteur Juif, donc.
Je veux bien, pendant des années, vous accompagner, être le Docteur Juif, le thérapeute compatissant, bienveillant, vous le connaissez. Mais je peux aussi, en une seconde, redevenir Bruno Juif. Vous m'entendez ? Un voisin extrêmement déplaisant qui a eu 5 mains courantes à la mi-juillet, des gros problèmes de copropriété, et cet ascenseur là, il va marcher un jour ? Vous voulez le rencontrer, ce type ?
Oh non.
Vous voulez le rencontrer ?
Oh non.
J'entends rien, vous voulez le rencontrer ?
Non !
Vous voulez le rencontrer ?
Non, on veut pas ! Qui veut le rencontrer ne saute pas !
Alors vous ne sautez pas ?
Non, je ne saute pas !
Stop, Marc !
Ouais.
Qu'est-ce que vous faites là ?
Je sais pas, vous me faites danser.
Vous voyez que vous avez déjà été gourou.
C'est pas un gourou, c'est un très très bon thérapeute.
Très bon psychanalyste.
Merci beaucoup de remettre les choses à leur place. Il a aussi peu de diplômes que le personnage de gourou, ça c'est vrai, je vous le cache pas. Aussi peu
coach
de formation.
Master, ouais. Coach mat.
Mais c'est parmi les plus grands fous rires de ma vie avec Jonathan. Il y a le bêtisier qui est en ligne notamment. Et c'est vrai que on a ri comme des fous. Et en même temps, on prenait très au sérieux. Voilà, toujours pareil, la comédie, c'est quelque chose qui doit faire rire, mais qui doit être fait sérieusement quand même. Donc on riait beaucoup, mais on avait aussi conscience de ce qu'on voulait faire. Et ça fait des années qu'il m'en parlait de ce projet de série, Jonathan, depuis que je l'ai connu. J'avais 18 ans au théâtre, Jonathan. On jouait du Jean-Luc Lagarce ensemble, sous la direction de Julie Brochaine.
dramaturge canadien très sérieux. Pour le coup, ça n'est pas du tout de la comédie.
Ah, non, non, non.
Pas du tout de la comédie.
Il fallait qu'on évacue. Et donc, entre les répétitions et entre les représentations, on avait aussi des immenses fous rires. Moi, j'avais 18 ans, je rencontrais Joe et je découvrais une planète, quoi.
Ouais, c'est ça. Alors, quand on fait Docteur Juif en face de Jonathan Cohen, technique ou improvisation ? Ou alors, il y a de l'improvisation, mais c'est aussi de la technique.
C'est aussi de la technique, bien sûr. Parce qu'en fait, si on fait que rire soi-même ou faire des trucs qui nous font rire, c'est pas nécessairement drôle pour les autres. Donc, il s'agit aussi de cerner qu'est-ce qui va bien rentrer, même s'il y a beaucoup d'impro. Je pense que c'est moite-moite à l'arrivée, ce que vous voyez. Il faut quand même suivre la ligne directrice qu'on s'est donnée, passer les informations qu'il faut passer dans la scène et se rendre compte aussi parfois, là, c'est vraiment un cas extrême où... on était censé tourner une scène en une heure et au bout de 4 heures de fou rire, on dit attends, là on est en train de mettre tout le monde dans le rouge et tout. Mais il y a quand même, je vais pas vous mentir, énormément de plaisir à faire la flamme, le flambeau, fiasco, five, bien sûr.
Voilà, Pierre Ninet, le trac, mais pas que. Ouais, vous allez revenir au théâtre ?
J'aimerais beaucoup trouver le bon projet parce que les planches me manquent, bien sûr.
Voilà, alors quel rôle ?
Je sais pas. Oh là
allez,
là, oh là
je
là
sais
là.
Pas. Oh là là.
Non, j'ai passé le prince de Hombourg, qui est une pièce de Kleist que j'aime beaucoup, que j'avais joué devant Guillaume Gallienne, même me semble-t-il, qui était dans mon jury au Conservatoire national d'art dramatique quand j'ai passé ses auditions.
Ouais.
Donc ça pourrait être ça, ça pourrait être Hamlet, j'en sais rien.
Ça pourrait être Hamlet.
Bah je sais pas, je dis les grands classiques, mais il y a sans
doute
d'autres
choses. Eh bah les grands classiques, justement, vous restez avec nous. Gourou, la semaine prochaine au cinéma, mercredi prochain au cinéma avec Pierre Ninet, vous l'avez compris. Et juste après le disque, le débat du jour, faut-il se forcer à lire les classiques ? Vous avez une réponse ?
C'est dur, j'aime pas le mot forcer, mais il faut les mettre à disposition des jeunes, on va dire.
Allez, voilà.
To leave your name and your number, and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Once again, it's another rap bandit, feeling that I can't stand it. Wanna be down with the day glow, knocking on my door saying hey yo yo. Knocking on my door saying hey yo yo, I got a funky new tune with a fly banjo. I can't understand what the problem is, I find it hard enough dealing with my own biz. How they get my name and number, then I stop and think and wonder about a plan. Yo man, I gotta step out top, you wanna call me up, take my number down. It's 2-2-2-2-2-2-2, I got an answer machine that can talk to you. It goes,
hey, how you doing? Sorry you can't get through, but what if your name and your number, and I'll get back to you. Yo, check it.
Exit the old style, enters the new. But nothing's new by being hawked by a few. Or should I say a flock? Cause around every block there's Harry, Dick, and Tom with a demo in his bone. Now I'm with helping those who want to help themselves and flaunt a nut that's doggy as a doe. But it's not the move to hear the tales of limousines and pails of money they'll make like a pro. I'd be like, yo, black disclaiming a tape. Well, actually show the time is fair, I just make. But the songs created in they shacks be so wick, wick, whack. Situations like this, I now hate to give me smiles, Kool-Aid riding ass.
What's it that?
And with the straightest face, I be like,
hell yeah.
I slip them the digits and pop a Prince Paul so I don't go AWOL. But yet I know when they call, they get.
Hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Check it out.
Haven't been to a jam in quite a while. Figure out, catch up on the latest styles. Then piles and piles of demo takes about a mile. All I wanna do is cut on the tech 12, but addition the fear, brother mile to the sector. Believer of duty, plug one Moses in, and I be like, yo, G Pasta's all a producer.
De la soul, ring, ring, ring. Souvenir des années 90, vous écoutez le Mac de la Grande Matinale et nous sommes ensemble jusqu'à 10h. À 9h45, Charline Vanhoenacker.
Bonjour la France Inter, je vais vous parler de Davos sans aucune allusion à Trump. C'est un peu comme faire du Pérec, vous savez, le roman sans E. Oui. En revanche, il y aura des culs, beaucoup de culs.
Ah
je l'attendais pas.
Daphné Burki. Virginie.
Bonjour, bonjour. Et oui, c'est le rire du fond du studio. À 9h50, je vous présente une rappeuse. Elle est bluffante, incroyable. Elle s'appelle Deuxelle. Peut-être que vous en avez entendu parler. Elle va venir, voilà, avec son flow et un musicien. Il y aura du live dans le studio. Il faut absolument que je vous la présente.
On s'impatiente. 9h30, c'est l'heure du débat du jour.
Des livres comment je dis ? Si, il y a La République.
La République de Platon.
Ouais.
T'as lu ça ? Mais alors quel genre de questions il pose ? Sur quel sujet ?
Surtout, c'est sur l'amour, sur la religion, sur Dieu, sur les gens, surtout.
Mais c'est très bien que t'aies lu ça.
Ouais, je sais. C'est pas de pétasse, hein.
La lecture se casse la figure. Les jeunes décrochent. Partout en France, des événements sont organisés pour les petits et pour les grands. Radio France est partenaire. Ça s'appelle Les Nuits de la Lecture et l'idée, c'est de donner envie d'ouvrir un livre. Oui, mais quel livre ? La question que je pose ce matin, faut-il encore se forcer à lire les classiques ? Faut-il les lire en entier ? Et jusqu'au bout, ça fait déjà rire un de mes invités. Ou est-ce qu'on arrête d'embêter les ados avec une littérature qui engendre aussi du découragement et parfois du dégoût.
France Inter, la grande matinale, Sonia De Villers.
Hugo, Balzac, Flaubert, Corneille, Madame Lafayette, Proust, Céline, on en débat avec deux professeurs. Emmanuel Godot, bonjour.
Bonjour.
Essayiste et poète, vous enseignez au lycée Henri IV et vous publiez Avec les grands livres, sorti au début de l'année aux éditions de l'Observatoire. Face à vous, Lucille Nova, bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez vous aussi dans un collège en Seine-Saint-Denis et vous êtes auteur de Grandes Dents aux éditions La Découverte, un ouvrage très remarqué sur le célèbre conte de Perrault, Le Petit Chaperon Rouge, qui est donc un classique, lui aussi. Emmanuel Godot, je commence avec vous. À part que vous portez, comment dire, le nom d'un très beau personnage de littérature qu'on attend toujours, c'est ça ?
Oui,
hein, chez Beckett.
Qui a beaucoup troublé mes élèves tout au long de ma carrière.
C'est ça, ils attendaient Godot.
Ils attendaient Godot.
Et Godot n'arrivait jamais.
Un m'a dit un jour, en attendant Beckett de Samuel Godot. Donc ça m'a... Voilà,
c'est très joli. Alors, on commence avec vous. Vous publiez donc Avec les grands livres, qui est une ode à la lecture des classiques, aux livres qui nous grandissent, pour reprendre votre expression. Ces lectures, dites-vous, et on le constate tous, demandent aussi un effort. Or, c'est cet effort-là, selon vous, qui est le plus bénéfique, mais aussi le plus difficile à obtenir aujourd'hui.
Oui, c'est difficile, mais il y a sur la route justement des jeunes. Ben, il y a des éveilleurs, il y a des professeurs du primaire, de collège, de lycée. C'est compliqué, c'est difficile, mais de proposer d'une manière ou d'une autre, c'est peut-être de ça dont on débattra, mais d'une manière ou d'une autre, une confrontation, une rencontre avec des voix venues, j'allais presque dire d'ailleurs, d'autres époques, d'autres horizons, d'autres paysages, qu'ils s'appellent effectivement, vous disiez Balzac ou Hugo, qui sais-je encore, il se passe quelque chose.
Mais vous dites, Emmanuel Godot, nous vivons dans un monde de divertissement généralisé. Et à l'inverse, selon vous, la lecture, elle se fait dans un silence et une attention maximale. Et elle va à l'encontre, en réalité, de cette époque qui favorise, on va dire, le grappillage, le zapping, l'immédiateté, l'immédiatement accessible, l'immédiatement facile, l'immédiatement compréhensible.
Oui, la lecture, c'est un art, en fait. Donc, ça s'apprend, comme tous les arts. C'est un art très personnel, bien sûr. On a tous les droits en matière de lecture.
Et c'est une difficulté, dites-vous.
C'est une difficulté, oui, parce qu'on... Moi, je crois que l'enseignant, il est là, au fond, pour non pas imposer. Il ne s'agit pas de dire « il faut lire ». D'ailleurs, moi, si je prends mon parcours personnel singulier, je n'étais pas un grand lecteur quand j'étais jeune. Tout ça, ça s'apprend parce que tout à coup, vous avez des éveilleurs. Moi, je me souviens, on a tous un professeur dans notre vie. C'était Madame Lespinasse au lycée de Gisors. Et c'était Francis Jammes, c'était Pierre de Ronsard. C'était des fragments. C'était une culture anthologique. On ne lisait pas pas tout. On feignait de croire et de faire croire qu'on avait lu tout.
Mais on incluait les grands textes.
Mais on incluait les grands textes.
Et ça, pour vous, vous le revendiquez, on inclut les grands textes.
Oui, oui, on inclut toujours les grands textes. Moi, je me souviens, par exemple, en quatrième, on étudiait à l'époque, je pense que ça se fait toujours d'ailleurs, on étudiait le Cid. Cette année-là, moi, ça m'avait frappé, on étudiait le Cid, on étudiait le Horla de Maupassant, on étudiait L'Étranger de Camus. Mm. Alors, inutile de dire qu'en en quatrième, j'ai probablement rien compris à ce qu'est L'Étranger de Camus et qu'il a fallu un peu d'expérience de vie pour revenir.
Mais il n'y a rien qui vous insupporte plus que cette démagogie qui consiste à dire qu'en réalité, les classiques ne sont pas faits, ne sont plus accessibles à un certain nombre d'élèves et notamment aux plus défavorisés.
Oui, ça m'a toujours... Ça, quand j'ai commencé mon métier d'enseignant, c'est ce qu'on me disait dans les années 1990. Et ça m'a choqué parce que je me suis rendu compte au lycée Pasteur des Nimbaumont, lycée technique, que mes élèves, quand on leur faisait du Marivaux, du Molière, etc., avec ce rôle de passeur du professeur, évidemment, ils aimaient bien.
Lucille Nova.
Oui, je suis. En fait, je crois qu'on est d'accord.
Ah bah de toute façon, j'ai invité deux professeurs de français qui aiment faire lire, faire lire. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Oui. La question, c'est est-ce qu'on s'enquiquine ? Est-ce qu'on force ? Est-ce qu'on impose les classiques ? Ou est-ce qu'en finalement, l'horreur est passée ?
Oui, voilà. En fait, je crois que la manière dont vous formulez la question pose un problème qui n'existe pas vraiment, il me semble, en tout cas, dans mon expérience d'enseignante, donc dans un collège de REP à Bondy. En fait, notre métier, c'est quand même plus de donner envie que de forcer les élèves, de leur donner envie de lire, d'espérer que cette envie, elle perdurera après l'école aussi, en ayant conscience de notre responsabilité aussi, de la responsabilité de cette institution.
Mais vous avez bien conscience quand même qu'il y a un certain nombre de classiques qui sont perçus par beaucoup d'élèves comme une injonction, comme une corvée.
Non, et... alors du coup, justement, c'est là qu'est notre travail. Donc, je pense d'une part qu'il ne faut pas prendre les élèves pour plus bêtes qu'ils ne sont. Et d'autre part, je crois que ce qu'on appelle justement des classiques, c'est pas juste une espèce de patrimoine muséifié comme ça. C'est des textes qui ont une richesse particulière, qui sont inépuisables, qui sont ouverts à la discussion et à l'interprétation, parce qu'ils comportent des mystères, des failles, des accidents dans la trajectoire d'un personnage ou dans la forme, souvent dans les deux. Et donc ça intéresse en fait les jeunes lecteurs face auxquels on est. Je crois vraiment que je peux vous donner un exemple. Voilà, il y a des enjeux qui résistent au temps. L'Iliade, c'est un carton plein tous les ans, renouvelé éternellement, avec une classe de cinquième. Vraiment, il n'y a pas de... Donc oui, ça va être des versions abrégées, etc. Bon, ça c'est la petite cuisine interne.
Mais c'est de ça dont on parle, c'est la petite cuisine.
Pour des cinquièmes, moi, ce qui m'intéresse, c'est de les voir.
Vous n'avez aucun problème avec les versions abrégées, par exemple.
Non, mais ils sont en cinquième, ils ne vont pas lire la version de Jacotet. Enfin, je veux dire, c'est compliqué, ils vont en lire des extraits, bien sûr.
Mais vous n'avez aucun problème aussi, et ça m'amuse beaucoup, à leur faire réécrire un grand classique en SMS, par exemple.
Oui, alors ça peut arriver, en effet.
Non, mais ça n'est pas sacrilège.
Oui, tout à fait. Ah non, c'est pas sacrilège. Non. Donc, je pense que vous faites référence à un exemple que j'ai donné. En l'occurrence, on avait donc parlé du mythe d'Orphée et Eurydice en classe avec des quatrièmes, et je leur fais réécrire la catabase donc de Orphée qui va chercher Eurydice aux enfers par texto. Et donc, ça donne quelque chose d'assez drôle parce que les élèves sont obligés de se mettre dans la tête de ces deux personnages. Voilà, l'attente. La recherche, ça capte pas très bien aux enfers, tout ça, bon, voilà. C'est quoi ma démarche là-dedans ? C'est que je me vois pas comme... Je fais pas cours à une tribune en haut du Panthéon. Voilà, c'est pas vertical. En tout cas, j'essaye de faire en sorte que ce soit pas vertical. Je suis dans une classe, face à des élèves, ou même avec des élèves, qui, en l'occurrence, vont assez mal. Je pense que c'est important de le dire ici, puisqu'on parle des adolescents, entre... l'hydre Parcoursup, la conviction qu'on va les envoyer à la guerre, tout un tas de choses.
Mais Emmanuel Godot, quand même, je vois que vous écoutez tout ça avec beaucoup de sourire, mais quand même, quand on lit votre livre et les différents entretiens que vous avez donnés, on sent chez vous quand même, c'est pas sacrilège de prendre le mythe d'Orphée, de le réécrire en texto, mais quand même,
mais quand même. On sent que vous êtes rétif aux lectures en abrégé. On sent que vous êtes rétif à tout ce qui abolit en réalité la difficulté et l'apprentissage de la difficulté.
Mais en fait, on parle de, je crois que de la même chose. On a un objet qui est vraiment passionnant, c'est la littérature. On l'aime tous les deux de la même manière, je crois, avec la même intensité, en tout cas, puisque on consacre notre vie à cela. Donc et que c'est le cœur de notre métier. On nous dit que nous sommes des professeurs de français, mais nous sommes des professeurs fondamentalement, je crois, de littérature.
C'est mais ça vous dites, c'est Balzac se lit in extenso. Ben,
tout simplement parce que effectivement. Pour amener, et c'est ce dont vous parlez, pour amener des très jeunes consciences à s'intéresser, eh bien, moi j'allais dire tous les moyens sont bons. Ensuite, l'idée c'est de creuser un tout petit peu après. Il y a tout un parcours d'existence, pas simplement d'ailleurs pendant, c'est ce que vous dites, hein, pas pendant simplement les années scolaires. Si on a pu donner l'envie ensuite de poursuivre, et un jour de se rendre compte, parce qu'on a étudié effectivement Balzac en abrégé, on a supprimé les descriptions, puisqu'on a toujours décrété que c'était ennuyeux. Et si un jour on s'aperçoit qu'en fait, l'essentiel de Balzac est là, dans ces moments qui paraissent des temps un peu un petit peu de platitude ou de faux rythme, que là vous avez quelqu'un qui vous parle et de la société, de la condition des femmes. Balzac est un extraordinaire peintre de la condition, de la souffrance des femmes de son temps.
Donc vous n'êtes pas pour lire Les Misérables et pour sauter la description au début de chaque chapitre, par exemple.
Eh bien non. Effectivement. Mais peut-être qu'au début. Bien sûr, en classe, je ne sais pas en quelle classe de collège, j'ai plutôt
en quatrième.
Vision, c'est peut-être en quatrième maintenant.
Ben, vous n'êtes pas comme toute cette cohorte de professeurs qui a glorifié Daniel Pennac quand Daniel Pennac a dit les livres, ça s'abandonne, ça se commence au milieu, ça se jette, ça se reprend, si c'est trop difficile, on arrête. Vous n'êtes pas pour ce grappillage-là en toute liberté.
Mais
pour vous, ça dénature la lecture.
On peut l'être si vous voulez, mais dans le cadre d'un enseignement, vous avez besoin à un moment donné de vous attarder un peu et peut-être d'aller au-delà de la première impression. Et très souvent, vous voyez que la première impression n'est pas la bonne.
Lucile Naval, on va conclure.
Oui, je veux dire une chose, c'est que pour moi, les élèves sont les adolescents que j'ai face à moi. Ils sont pas seulement des lecteurs, ils sont aussi. J'ai envie de leur donner envie d'écrire. Et donc, pour moi, l'exemple dont on parlait à l'instant, mais plein d'autres choses, le fait de se sentir autorisé à entrer dans un texte, à ouvrir les fenêtres, à desserrer un peu, laisser circuler l'air. Porter un regard critique aussi, le droit de critiquer une œuvre, de dire je me suis ennuyée, etc. C'est aussi une manière de se positionner en potentiel auteur par la suite. C'est-à-dire, on va aussi les faire écrire, on va aussi faire d'eux des rédacteurs. J'ai l'impression que c'est quand même leur enseigner aussi l'esprit critique et une forme de subversion qui est contenue dans ces classiques. Vous voyez, si j'arrive avec mon texte comme une espèce de sarcophage plutôt que comme un chic type sous la forme d'un fantôme qui s'appelle Montaigne avec qui ils vont pouvoir discuter, je pense que je vais les ennuyer, je vais les dégoûter.
Lucile Naval et Emmanuel Godot qui donnent envie de lire, qui font lire, qui écrivent eux aussi parce qu'ils sont lecteurs et écrivains. Je précise que dans les Nuits de la lecture, Félix Moati fait les admirations littéraires en ce moment sur France Inter et que c'est aussi un moyen de découvrir à l'oral de très beaux textes et qu'Eva Bester lit des textes avec ses invités dans son émission tous les soirs. Merci à tous les deux. Vous restez avec nous. Le choix musical de la grande matinale aujourd'hui, c'est la chanteuse Yael Naïm.
Je suis pas la fille qui ose, je suis pas la fille qui pose, pas la fille qui fait rire, pas de grandes choses à dire, pas la fille à la mort. Jamais compris les codes, pas vraiment de conviction, quelques bêtes addictions, pas comme ça un peu folle, pas du tout une idole, pas une briseuse de cœur, j'avais trop souvent peur, pas une grande sportive, pas vraiment combative. Voilà tout ce que je ne suis pas. Alors moi je suis quoi? Je suis la fille peu courte.
Yael Naïm en concert à l'Hyper Weekend Festival à la Maison de la Radio et de la Musique. Ce sera dimanche avec le cœur de Radio France. Vous imaginez comme ça va être beau. 9h46, merci d'écouter France Inter. Daphné et oui. Burki, sa nouvelle tête.
Qui sera aussi à l'Hyper Weekend Festival d'ailleurs.
Et ben voilà. Et Charline qui ont pris place autour de la table du MAG de la grande matinale. Charline, d'après la presse suisse, pendant le forum de Davos, et oui, la demande d'escort girls est en pleine inflation.
Et oui. Chaque année, pendant Davos, on parle des 700 jets privés, des chefs d'État et des grands patrons. Mais ils ne niquent pas que la planète.
Oui, Daphné, elle me pousse. Assieds-toi, reste assise. Oui, on va parler des relations tarifées avec les escort girls, Daphné. Mais c'est un angle intéressant, ma chérie, qui nous éclaire un petit peu sur la recherche de partenaires économiques. En plus, en ce moment, avec ses lunettes de soleil, Macron a une dégaine de proxénète. On est raccord, non? Donc maintenant, quand on va nous dire que Davos, c'est le sommet du libre-échange, vous saurez qu'il y a une double lecture. Mais il y a un langage codé chez les participants. Hein. Alors, c'était bien cette rencontre bilatérale hier soir, t'as conclu? Absolument. Le client était satisfait? Tout à fait. Des patrons qui exploitent des travailleuses, jusque-là, rien de très original. Mais c'est l'une des rares occasions pour un grand patron de se retrouver pour une fois dans la peau d'un client. Avec le jargon de la finance, de toute façon, tout passe discretos. Hein. D'ailleurs, ils disent pas « j'appelle une prostituée ». Mais je sollicite une ressource humaine externalisée afin de faciliter les échanges pour notre projet de fusion-acquisition. Non, apparemment, vu l'inflation de la demande, les femmes contactées sur les plateformes ne sont pas toutes des professionnelles. Et il peut même s'agir d'étudiantes, d'enseignantes ou de voyageuses internationales qui cherchent un revenu supplémentaire. Mais c'est certainement pas à Davos qu'on va reprocher aux femmes d'avoir le sens des affaires. Oui, je suis en train de rire à propos de la prostitution. Parfois, je me dis, vous savez, au lieu de poser la question du lien entre humour et militantisme, on pourrait peut-être poser la question du lien entre capitalisme et utilisation du corps des femmes. Voilà. D'ailleurs, qui couvre le forum de Davos pour France Inter? Je suggère une petite investigation pour vérifier le taux d'inflation de la demande. Parce que moi, j'ai lu augmentation de 4000% des demandes d'escorte pendant le forum. Faudrait vérifier, c'est beaucoup quand même. Quoique, depuis le décès de Jeffrey Epstein, c'est devenu plus dur pour les puissants de pécho pas cher. C'est vrai. Alors, ils doivent faire passer ça en note de frais. Monsieur le Président, c'est quoi cette facturette? La balançoire brésilienne? Oh, c'est une note de bar, Monique. Oh, je leur ai dit que c'était complètement idiot comme nom de cocktail. Oh là là, les Suisses. Et là, il y a toutes les femmes de patrons qui nous écoutent là à France Inter et qui vont appeler leur mari pour savoir où ils étaient hier soir. Bon, après, c'est des mecs là-bas, ils viennent en jet privé pour parler d'écologie, donc ils peuvent bien tromper leur femme pour parler d'éthique le lendemain. En plus, ils payent avec leur compte en Suisse. C'est du circuit court, hein. Mais il y a encore des gens qui ont envie de s'envoyer en l'air après avoir écouté le discours de Trump. Ça bloque pas la libido. Ah, j'ai craqué, j'ai parlé de Trump. Oh là là. Vous savez, apparemment, l'économie, c'est bon pour la libido. Hein. Sinon, pourquoi DSK, il serait resté aussi longtemps à la tête du FMI? Et comme on dit, ce qui se passe à Davos, termine dans ma chronique.
Allez.
Et on vous retrouve samedi, Charline, 19h20, dans Bistroscopie, avec l'actrice Aïssa Maga.
La grande matinale sur France Inter.
Allez, Daphné Burki et sa nouvelle tête.
Il est 9h49 et nous sommes en direct dans le studio de la grande matinale de France Inter. Et ce matin, ma nouvelle tête s'appelle Deuzel. Elle est rappeuse, elle est musicienne. Elle s'appelle aussi Lola. Hein. Elle a 22 ans, elle vient du 20e arrondissement. Elle est en master de maths. Donc déjà, c'est une nouvelle tête qui sait compter, mais qui compte surtout les injustices qu'on préfère ne pas voir. Elle a grandi avec son violon au conservatoire, avec la discipline, les notes bien rangées. Et puis elle a ajouté le rap il y a quelques années pour déranger
poser peut-être les meubles qui sont dans sa tête et ceux de la société. Vous l'avez peut-être découverte dans Nouvelle École, émission phénomène sur Netflix, mais elle avait commencé bien avant, hein, avec son propre collectif, des open mic et son phrasé. Et si certains viennent y chercher leur destin dans cette émission, elle, elle a déjà montré qu'elle ne rentrera jamais dans une case, sauf si c'est pour la fissurer de l'intérieur, dans ces cas-là, pas de problème. Bonjour Deuzel, bienvenue sur France Inter.
Enchantée, merci beaucoup.
Contente que vous ayez accepté l'invitation. Alors Deuzel, bon, je suis obligée de poser la question, c'est quoi ce blaze? Qu'est-ce qui veut dire Deuzel?
Eh ben c'est pour Lola.
Tout très simplement, simple. Les deux ailes
tout
de Lola.
Ouais.
Bah ouais, parce que le rappeur NASA, il avait un autre nom pour vous, c'était 4L pour lourd, 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 lourd. C'était bien aussi,
c'était
4L.
Très mignon, ouais.
Peut-être dans la suite.
Ça me suit d'ailleurs, tout le monde me regarde. Lourd, 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 lourd.
C'est bien, à tout moment de la journée.
Oui, à tout moment de la vie.
Je disais, vous êtes un master de maths.
Oui.
Et vous enfin, faites
là,
du rap.
Je dois avouer que là, j'ai fait une pause.
On en est où?
Je t'avoue que là, c'est un peu... Là, je devrais être en maths, là, actuellement.
Mais c'est ce que j'allais demander.
Donc là, non, j'ai fait une pause. Mais jusqu'à l'année dernière, ouais, c'était le cas.
Parce que c'est délirant. C'était une double vie, double cerveau. Bon, ça ne m'étonne pas de votre part. Mais je me suis demandé si les maths, ça, c'est une question hyper naïve, hein, ça pouvait éventuellement, d'une manière ou d'une autre, vous influencer dans la façon d'écrire, dans la façon de poser votre flow, de construire un morceau.
Je pense que c'est plus le solfège, en vrai, qui aide là-dedans. genre, qui est un peu un côté mathématique, tu vois, mais qui est vraiment plus le côté rythmique, pas avoir le côté de je sais pas où je tombe, je sais pas où sont les temps, je sais pas compter. Quand t'as le solfège dans ta tête, ça, c'est carré, tu vois.
Ouais, oui, mais le solfège, il vient pas nulle part. Vous avez commencé le solfège à quel âge?
J'ai commencé, moi, le conservatoire, j'ai commencé à 7 ans. Il y a des conservatoires dans tous les arrondissements de Paris. Et voilà, j'ai commencé le violon et le solfège, et tu fais aussi de la chorale. Donc moi, j'ai commencé le chant aussi, petite. Et voilà.
Et c'est passé tout et tout ça s'est très bien passé, mais je me demandais quand même comment ça tenait dans la même semaine, donc petite pause sur le master de maths. Mais le grand public, lui, il vous a découvert, je le disais, dans cette émission qui s'appelle Nouvelle École, ça se passe sur la plateforme Netflix. C'est en fait, je raconte aux auditeurs qui ont peut-être sont passés à côté du phénomène, c'est un concours de rap où des artistes s'affrontent sur des épreuves d'écriture, de performance, ils ont des coachs, et chaque épisode, ça peut devenir une vitrine ou un gros piège, c'est très dangereux. Oui. On va écouter l'extrait de cette finale d'anthologie avec vous dedans.
J'allume Paris mais le prix veut pas des nôtres. Je reste dans les, je veux pas caler les gros bonnets. Ils ont des idées mais pas d'un gros problème. Ces bâtards ils volent mon air. J'ai pas de raison d'être solo. J'ai des doutes d'être sold out. Tu surestimes, on reste honnête. Je serai jamais un bon soldat. 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 Je suis pas.
Bon, c'est faut voir ces images, c'est le feu. Je ne sais pas ce que ça vous provoque d'ailleurs de réentendre ces images. Est-ce que vous y êtes encore ou est-ce que vous êtes passé à autre chose?
Bah pour moi, c'était encore plus en arrière dans le passé que pour les gens qui l'ont
c'est
vu à la télé.
C'est une émission évidemment qui a été tournée et qui a été diffusée en novembre.
C'est ça, et je me suis découverte à la télé par contre, parce que je n'avais rien vu. Donc il y a un peu des deux. À la fois, c'était juste un trop chouette moment en vrai. Donc c'est juste des souvenirs, j'étais avec tous mes potes sur scène habillés en caouet noir, donc c'était magnifique. Et ouais, non, franchement, c'était un beau moment. J'ai réussi à faire tout ce que je voulais sur cette partie scénique et la partie morceau, quoi. Donc,
et en effet, ce qu'on voit pas forcément, c'est que bon, bah la salle, elle est en folie. Vous l'avez entendu. Et pour terminer, elle attrape son violon. La salle pète un plomb. Ce violon qui vous accompagne depuis que vous avez l'âge de 7 ans. Alors, quand on fait du violon depuis l'âge de 7 ans, je me suis demandé à quel moment le rap est venu s'immiscer dans votre vie. Ou est-ce que peut-être, et on se l'est déjà dit Sonia avec différents invités, est-ce que la musique classique finalement c'est pas si éloigné que le rap et que la rigueur que ça demande?
Je pense que les deux demandent de la rigueur. Après, moi, je viens du rap aussi générationnellement, tu vois, géographiquement, parce que je suis à Paris. Enfin, tu vois, le rap, il a toujours été dans ma vie, même si je faisais pas de rap, même si j'étais pas rappeuse. Et c'est plutôt après, avec mes potes, que, je sais pas, il y avait une espèce d'émulation où j'avais beaucoup d'amis qui rappaient. Et du coup, mais pas moi. Et moi, j'étais juste l'espèce de fan derrière, mais qui connaissait tous les textes de tous les rappeurs, tout le monde, tous mes potes, tout ça. Et au bout d'un moment, bah, moi aussi, j'ai écrit un texte, et voilà. Et après, on a monté un collectif ensemble et tout, et voilà.
Là où ils m'ont impressionné, vos textes, c'est quand il y a eu... parce que c'est, bon, on le dit, voilà, le rap, c'est un monde très masculin. Et dans cette saison, vous étiez entouré de beaucoup d'hommes aussi. Mais il y a des battles, et donc vous avez marqué les esprits, entre autres avec ce texte.
Crochet, t'as payé qui pour être ici? Ce que tu dis, c'est du vide, Air Max a du vent dans la tête. Il parle braquage et raquette, Maximilien vend des baskets. Tu veux vendre des pères, tu t'es dit, je vais faire du rap, je vais faire de rimes, je suis Alpha One, même ses lunettes, t'as pas, casse-toi. Skinny, t'aimes pas dans l'équipe, ils savent à peine t'es qui. Trois fois que tu te fais sélectionner, trois fois qu'ils croient que t'es de la.
J'avais de la peine pour lui. Il est en face de vous et il se fait
exploser.
Exploser sur place. La séquence est incroyable. Et ce qu'on entend hurler, c'est
le Max.
C'est votre coach. T'es très grand rimpeur, mais quand même là. Bon, voilà. Mais
on peut dire quand même que Lola, elle est là. On dirait une petite crevette. Elle est là, elle est toute palote. Elle a ses cheveux longs. Elle a sa raie sur le côté. Elle a ses petites boucles d'oreilles en forme de pastèque. Il y a comme une espèce de dissonance cognitive entre ce que je vois et ce que j'entends, Lola.
Je pense que c'est ça aussi qui crée tout ce personnage de zèle, c'est le fait que quand j'arrive, personne s'attend à ce qui va se passer. C'est pas en mode qu'on se dit « elle va faire ça », mais on sait pas ce que je vais faire. Et du coup, bah, quand je fais ce que je fais moi, c'est-à-dire du rap, bah, y a quand même un écart.
On ne sait tellement pas ce qu'elle va faire, Sonia, que quand j'ai proposé une carte blanche, et bah, elle m'a proposé de reprendre Georges Brassens. Bon, bah, très bien, alors allons-y. Et cette chanson, elle s'appelle Hécatombe, elle date des années 50. Ce n'est pas la plus connue, mais c'est la plus épique. Hein. Une bagarre entre des ménagères et des gendarmes. Vous êtes accompagnée par Adrien Mabila. Le studio de France Inter est à vous.
Allez. Marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignons, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Or, sous tous les cieux sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies perdant toute mesure se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle assez croquis. Frénétique, l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Il tombe, 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 et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. Jugeant enfin que leur victime avait eu leur compte en deugnons, ces furies comme outrage ultime en retournant à leurs oignons. Ces furies, à peine si j'ose le dire tellement c'est bas, leur aurait même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas. Leur aurait même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas. Merci Adrien.
C'est pas un hasard ce choix de chanson quand même, on va se le dire. Alors tout le monde s'accorde à dire que vous défendez un rap féminin, engagé et réfléchi. Et c'est drôle parce que là, en choisissant Brassens, bon, bah, vous choisissez aussi une certaine idée de la chanson. Authentique, sans artifice, juste un flow, une liberté. Lui, il débarquait avec sa moustache et sa guitare.
Exact.
Vous arrivez avec votre violon et une colère très précise. Cette conscience-là, cet engagement-là, il a démarré comment ?
Il vient du reste de ma vie, qui est ancré aussi dans des réflexions politiques, de par ma famille, de par mes amis, de par voilà ce que je fréquente, ce qui m'intéresse. Moi, je m'intéresse au reste du monde, et donc bah forcément, ça transparaît dans mes textes, pas dans tous les textes. Il y a des textes aussi qui sont plus sensibles, plus personnels, mais avec toujours cette idée quand même que le reste du monde ne disparaît pas quand j'écris, quoi.
Et aujourd'hui, vous nous proposez un nouveau titre qui sort demain, mais c'est une exclusivité.
C'est une exclusivité
sur France Inter. Elle parle de quoi ce titre ?
Il s'appelle Enchanté. Donc, c'est une espèce de présentation un peu de. Tu ne sais pas qui je suis, mais tranquille.
De Zèle, le studio de France Inter est de nouveau tout à vous.
Yeah. Uh-huh. Se sont jetés sur le buffet, j'ai rien vu venir, je suis en mode tunnel. Ils sont encore fans de Louis XVI, j'ai pas pu rire, il faut les fumer. D'erreur, je vais truffer, ça veut du blé, donc ça vend son derche. Non, on jouait mais le piano est détuné, putain, je peux pas nous désunir. Entre nous, y'a la musique, le trait d'union, mais c'est travers, nous répudions. La morale est dure, j'écoute mes visions. Sur les cuissons, je mettrai que mort au con. Je roule au Marocco, puis je sors un son. Je suis en mode impro pour voir ce qu'on fout. Ça sent pas le roussi si je suis dans le coup. Il m'apprécie, mais je vois pas l'enjeu. Je suis pas l'ange que t'attends, je balance dans ta tempe pour avancer. Très vite tu vas me planter, mais je dévie pas pour me vanter, enchanté. Je suis pas l'ange que t'attends, je balance dans ta tempe pour avancer. Très vite tu vas me planter, mais je dévie pas pour me vanter, enchanté.
Et bravo.
Moi aussi, hein. Je suis enchantée.
Magnifique. La suite demain.
Oh, merci la beaucoup. Vous avez une dédicace ce matin au micro de France Inter ?
Je vais complètement dédicacer cette chronique, ce moment, je ne sais pas comment on appelle ça, à El Hassen Diarra, tué par la police du 20e arrondissement il y a quelques jours. Il y a une manifestation dimanche, 14h, foyer des Mûriers.
C'est dit. Voilà. Et vous, vous partez en tournée partout en France, à Alençon d'ailleurs, je précise ce soir. Le 22, il ne reste que quelques places. Et l'Hyper Weekend Festival à Radio France, le 24 aussi. Par contre, la Cigale, le New Morning, tout ça, toutes les dates, c'est complet. Je suis désolée. Il faut aller sur ces réseaux et trouver une date où il y a de la place.
La fin de l'émission, il est 10h, les filles. Je vous donne le sujet d'Ali parce qu'on est très en retard. Blanquette, tagine, pot-au-feu, comment réussir ses plats mijotés ? Vous l'appelez au 01 45 24 7000, vous le contactez sur WhatsApp et vous lui donnez toutes ses recettes. C'est la fin de la grande matinale.